RCF.
Je ne fais que passer pour vous annoncer que nous allons retrouver Alexis Claudretz aux commandes du 18-19 en région.
Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre en direct pour le magazine régional RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardennes, RCF Champagne-Ardennes en DAB+. J'allais dire, vous connaissez la chanson, Gérard Marie est avec nous comme tous les jeudis. Bonsoir Gérard.
Bonsoir Alexis, bonsoir à tous.
On va parler véhicules aujourd'hui et véhicules de marque française.
Oui, on va parler de la voiture du peuple électrique.
Bon, on ira se balader notamment du côté des marques Citroën, Renault, Dacia.
Tout à fait.
On vous retrouve d'ici quelques instants pour en parler. Elle est à nos côtés également, Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction. Tout au long de cette semaine, elle est dans la peau de notre Miss Météo sur RCF. Bonsoir Mélissa.
Bonsoir.
On vous retrouvera à l'intérieur du journal régional en fin d'édition. Au programme de ce magazine, un maire qui vous parle. Vous le connaissez bien, celui de ce soir. Vous l'avez déjà entendu sur les ondes de RCF. François Moura est le maire de Vandeuil. Dans Parole de Jeunes, on reviendra sur l'attentat du 13 octobre dernier du côté d'Arras, vu par les jeunes. C'est la rencontre de Jeanne Boudre qui est allée voir son amie Charlotte, qui lui a un petit peu dit voilà comment les lycéens ressentent les choses, comment ils vont en cours, et notamment quand on a des parents professeurs, on verra que c'est des situations qui parfois sont un petit peu tracassantes pour les jeunes. Aujourd'hui, le député des Ardennes, Pierre Cordier, sera notre invité, les députés de la deuxième circonscription. Et puis enfin, on partira dans les prés et on verra que les chèvres peuvent apporter beaucoup de bonheur. En tout cas, c'est le cas pour Alexandre Blondeau, puisqu'il a un élevage de chèvres et il fabrique des fromages artisanaux. C'est très très bon, ça nous met l'eau à la bouche, mais il faudra patienter jusqu'en fin de magazine régional pour avoir cette découverte. Gérard Marie, je sais que vous êtes gourmand. Quand on vous parle de fromage de chèvre frais, je pense que ça vous met en appétit.
Oui, c'est vrai.
Bon, on va attendre un petit peu avant de prendre l'apéritif. Parfois, on l'a avant l'émission, parfois c'est après. Ce soir, il faudra patienter. Gérard Marie, bonjour.
Bonjour Alexis.
Vous voulez nous parler aujourd'hui donc de Citroën qui a présenté sa nouvelle citadine électrique.
Oui, voilà. Donc on a, vous savez que le gouvernement aimerait bien que les personnes de revenus modestes puissent s'équiper de voitures électriques. Donc arriver à faire des voitures qui coûtent moins de 20 000 euros avec le bonus qu'on leur donne, 5 000 en moins et encore 2 000, on arriverait à quelque chose qui ferait 13 000 euros. On en est encore loin puisque la nouvelle Citroën C3, enfin électrique C3, son prix de base c'est 23 300 avant les primes qui vont être...
Ça veut dire qu'on se retrouve sur une voiture qui coûte entre 15 000 et 16 000 euros,
voilà,
à peu
pour
près.
Le modèle vraiment bas de gamme, pour le modèle vraiment bas de gamme, celui qui n'a pas grand-chose, il a quand même des essuie-glaces, mais il n'a pas les vitres électriques, etc., etc. Alors, c'est important, puisque ça permet quand même de faire une voiture que l'on peut acheter en location avec des versements mensuels qui ne sont pas extraordinaires, puisqu'on arrive à descendre en dessous de 200 euros par mois.
Malgré tout, c'est un bon plan, la location, Gérard-Marie Henry,
oui,
parce qu'à la fin, on n'est quand même pas propriétaire de son véhicule, c'est
oui,
pas pareil.
Oui, mais c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi, ça fait une quinzaine d'années que j'utilise cette formule, hein, donc une formule où vous choisissez combien de temps vous allez faire prendre la location. Ça peut être sur 2, sur 3, sur 4. Et évidemment, si c'est plus long, le tarif de la location diminue. À la fin, on vous propose, si vous le voulez, d'acheter votre voiture au prix de l'Argus qu'elle est. Et vous n'avez aucun souci, puisque pendant toute la période, comme la voiture continue à être propriété de la marque qui l'a construite, c'est elle qui l'entretient, la répare, etc.
Alors, puisque c'est votre cœur, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais on y revient dans quelques instants. Tout ce qui est assurance, etc., si jamais on a un accident, on ne le souhaite à personne, mais comment c'est pris en charge? Comment ça se passe à ce niveau-là?
Oh, bah, ça se passe tout à fait bien. Vous êtes celui qui conduit le véhicule, vous avez une assurance qui couvre votre véhicule, qui n'est pas à vous, mais qui est couvert par votre assurance tout à fait normalement.
Et on peut prêter notre véhicule à d'autres conducteurs assurés pour conduire la voiture.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, c'était la petite parenthèse dans cette
donc
question
la
d'économie.
Location, la location avec option d'achat, c'est une formule que je recommande à ceux qui ne veulent pas sortir le cash tout de suite. Hein, une voiture où il faut sortir 20 000, 25 000 euros, ben là, vous ne sortez pas ça. Vous avez un premier loyer qui est modeste et puis après, des mensualités qui ne sont pas énormes.
Et c'est peut-être faire ce modèle que vont se tourner tourner les Français avec cette nouvelle Citroën qui a présenté donc sa Citadine électrique, parce que jusqu'alors il y avait une marque notamment qui était assez bonne sur le marché français, c'est la marque Dacia avec la Dacia Spring.
La Dacia Spring, alors on l'explique un petit peu, Dacia c'est un constructeur roumain qui a été racheté par Renault il y a une vingtaine d'années et donc qui vend sur le marché français des voitures qui sont badgées Dacia. Dans d'autres pays elles sont badgées Renault parce que les gens ne connaissent pas Dacia, ils préféreraient avoir une Renault. Et là, le constructeur français, donc Renault, a décidé de faire construire en Chine une voiture qu'il vend sous le nom de Dacia Spring. Donc c'est une voiture entièrement faite en Chine, une batterie chinoise, et qui est, alors à l'heure actuelle, le modèle de base est à 20 800 €, c'est-à-dire à peu près 3 000 de moins que la Citroën qui vient d'arriver.
Si on fait une comparaison comme ça à la Unu, Gérard-Marie Henry, quelle est la meilleure sur le marché selon vous?
On va regarder ce qui est important pour une voiture électrique, c'est la capacité de la batterie. C'est celle qui va vous permettre d'avoir une autonomie plus ou moins grande. Alors on a une très grosse différence puisque la batterie de la Dacia Spring c'est 28 kWh alors que la batterie de la C3 c'est 44 kWh. Donc ça veut dire que la Dacia Spring et l'autonomie au maximum de 220 km, si vous faites pas de bêtises, mettez pas de chauffage, mettez pas les essuie-glaces, mettez pas la radio, etc. Alors que la voiture Citroën, elle a une autonomie de 320 km. Donc il y a une grosse différence qui est liée donc à la taille de la batterie. Et là, le constructeur Citroën a décidé, comme Renault, de faire construire sa batterie en Chine, mais il a choisi un autre modèle de batterie électrique moins coûteux qui lui permet de mettre dans une voiture qui coûte pas tellement plus cher, une plus grosse batterie que son concurrent Renault.
Gérard-Marie Henry, ça j'allais dire, c'est pour les informations pratiques du véhicule qui concernent sa fonctionnalité. Si pour les amateurs de design qui aiment bien, j'allais dire, les grosses bagnoles, sur la voiture de Citroën, on sera sur un modèle un peu plus agressif au niveau des formes, j'allais dire.
Oui, ils ont fait en sorte que ça ressemble à un SUV, enfin une voiture, un 4x4, etc.
Une C3 en SUV, j'ai du mal à visionner quand même.
Non,
mais
si tu regardes la photo, tu verras, elle a quand même une tête assez sympathique. Alors évidemment, elle est comme la Dacia Spring, elle n'est pas construite en France, elle est construite en Slovaquie.
Ah, alors quelle est la différence entre le marché chinois et le marché slovaque, Gérard-Marie?
C'est pas une différence, c'est qu'on va faire construire des voitures dans les pays où les coûts salariaux sont plus faibles qu'en France. C'est tout simple.
Il y a quand même une bonne nouvelle pour cette Citroën IC3, c'est que le moteur est fabriqué en France.
Le moteur est fabriqué en France, pas très loin de chez nous, ici, à Trémery. C'est pas très loin c'est en Champagne. Donc, mais à part ça, tout le reste vient de l'extérieur. Et donc, c'est ça qui est un peu contradictoire. On a une grosse pression du gouvernement pour que les personnes de revenus modestes puissent accéder à la voiture électrique, mais ça ne va pas faire d'emploi en France puisque ces voitures pas chères, elles ne peuvent pas être construites en France puisqu'on ne sait pas pour l'instant faire de batterie et on a un coût salarial qui est largement plus élevé.
Alors finalement, bonne ou mauvaise nouvelle cette voiture électrique?
Les constructeurs répondent à la pression qu'on leur fait. Le gouvernement et le président Macron ont dit qu'ils voudraient bien avoir des voitures électriques pas chères et donc ils se disent il faut que j'en fasse, mais c'est un petit peu quelque chose qui va être financé de façon indirecte, puisqu'on a des primes de 7 000 €. C'est-à-dire, en fait, si vous achetez une IC3 de Citroën, je vais vous en payer le tiers, si on résume.
Et elle rentre sur le marché quand, cette IC3, Gérard-Marie?
Elle arrive là.
C'est le cadeau de Noël.
C'est le cadeau de Noël. Elle va arriver avec une version un peu plus intéressante, mais qui coûte 27 000. Donc, qui a à peu près la même autonomie, la même batterie, mais qui a quand même un peu plus de gadgets, etc. Un peu des vitres électriques, enfin, un certain nombre de choses auxquelles on est habitué.
Alors sur ce marché, cette IC3, elle sera proposée à partir de 99 € par mois sans premier versement, prime à la casse et bonus écologique inclus.
Oui, alors il faut
c'est
déjà
quand même important
avoir
de lire les petites lignes.
Oui, il faut lire les petites lignes. Il faut amener sa voiture déjà antérieure, donc c'est pas pour quelqu'un qui est un primo acheteur, il aura pas de prime à la casse. Et puis il y a des règles qui font que au-dessus d'un certain revenu, vous n'avez pas le bonus de 2 000, vous avez seulement celui de 5 000.
Gérard-Marie Henry, ce qu'il faut dire aussi, c'est que souvent lorsqu'une voiture arrive sur le marché, j'allais dire le modèle est presque déjà dépassé parce que les constructeurs pensent à la suite bien avant que la voiture soit elle-même mise en vente, et Citroën est déjà en train de nous faire des annonces pour 2025.
Oui, alors il veut arriver à baisser encore le prix, et donc la seule façon d'arriver à baisser le prix d'une voiture électrique, c'est de réduire la taille de la batterie.
Mais donc, là, on va plus rouler avec cette nouvelle batterie.
On arrivera à avoir à peu près l'autonomie de la Dacia Spring actuelle, c'est-à-dire 200 km. Il faut savoir quand même qu'en moyenne, les ménages français font pas plus de 100 km par jour.
Donc ça sera pas pour des grands trajets, en tout cas.
Ça sera pas pour des grands trajets. C'est une voiture urbaine, vous ne pourrez pas vous en servir pour aller sur la Côte d'Azur. C'est sûr qu'il faudra faire 3-4 arrêts, trouver des bornes, espérant que les gens qui sont dans la même voiture que vous ne sont pas en train de coincer les bornes. Enfin bon, il y a toute une série de petits problèmes, mais en usage urbain, c'est effectivement quelque chose d'assez intéressant.
Pour vous, Gérard-Marie Henry, faire les allers-retours entre votre domicile et RCF, vous y pensez ?
Oui, ben justement, j'aimerais bien que RCF me loue une voiture comme ça.
On va en parler à la trésorière de la radio, mais je ne suis pas sûr que la demande soit acceptée, Gérard-Marie Henry. A priori, il faudra encore utiliser votre propre véhicule.
Bon.
Merci Gérard de nous avoir éclairé.
À bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
18h20 sur les ondes de RCF, un maire bien connu ce soir nous parle sur l'antenne, c'est François Mourat qui s'entretient avec vous Jean-Pierre.
François Mourat, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'il y a quelques semaines, on vous avait retrouvé comme maire de votre commune, Vandeuil. On peut quand même en redire un mot. Vandeuil, combien d'habitants ?
200 habitants, à 18 km à l'ouest de Reims.
Et puis aussi, toujours le champion en matière de fleurissement, j'ai vu ça.
On a eu la chance d'avoir une troisième fleur, ce qui est pour l'équipe qui s'en occupe une reconnaissance. Et donc on va même recevoir cette troisième fleur dans quelques jours à Haut-Simon, qui est un magnifique village fleuri.
Donc, c'est l'occasion pour nous de revenir sur Vandeuil, mais très rapidement, puisque vous êtes aussi vice-président du Grand Reims, chargé, entre autres, de la voirie, et c'est peut-être pas d'ailleurs le titre complet. Mais auparavant, rappelez aussi qu'à Vandeuil, il y a des super vitraux dans l'église, faut le rappeler aussi.
Qui ont été consacrés par notre archevêque, Monseigneur de Moulin-Beaufort.
Et puis, il faut aussi rappeler que, quand on découvre la commune, moi je l'ai découverte il y a déjà plusieurs années, j'ai vu progressivement l'embellissement au niveau de la place, du village, au niveau du groupe scolaire, etc. C'est assez formidable quand même pour une commune de cette taille.
On a une volonté de l'améliorer, comme les habitants ont eu la faiblesse de me réélire pendant 40 ans, il y a une continuité et avec mes adjoints, on a voulu améliorer le village et je pense que effectivement ça se voit.
François Mourat, si on vous a demandé de revenir, c'est pas pour parler non seulement deux fois de Vandeuil, mais c'est aussi parce que dans les émissions votre maire nous parle depuis déjà plusieurs semaines, on les interroge à chaque fois en leur disant vous êtes encore patron dans votre commune mais vous devez aussi travailler avec les communautés d'agglomération, les communautés de communes ou avec par exemple le Grand Reims. Il y en a qui sont un peu critiques, en particulier on a vu dans les Ardennes sur tel ou tel fonctionnement. Et puis il y en a d'autres dans le Grand Reims, ce qu'on a vu était assez positif. Vous vous chargez de la voirie. Or dans toutes les communes, moi j'ai entendu des témoignages, ils disent que réhabiliter les routes, une rue de la commune, ça coûte très très cher et ils n'auraient pas été capables de le faire. Vous-même au niveau de la voirie, vous avez pas mal de boulot au niveau du Grand Reims.
Oui, alors, le fait d'être en communauté urbaine, le Grand Reims, c'est une communauté urbaine, a fait que le transfert de compétences des voiries a été intégré. C'est-à-dire que toutes les voiries des communes sont devenues des voiries intercommunales, donc dans la communauté urbaine. Ce qui fait que c'est la communauté urbaine qui s'occupe des voiries. Alors, ça n'a pas été simple parce que les voiries étaient encore dans les mairies, le pôle d'intérêt des maires, puisque quand on a un nid de poule ou quelque chose devant sa maison, on va voir le maire. Et donc, les maires étaient très attentifs à ce que la voirie soit soignée. Mais une voirie, ça coûte très cher, et c'est vrai qu'un certain nombre d'investissements qui auraient dû être faits dans les communes n'auraient pas pu être faits si la communauté urbaine n'était pas intervenue compte tenu de sa puissance, financière.
C'est ce que beaucoup de maires nous ont dit, mais beaucoup de maires ont ajouté aussi qu'il y a 20 ou 30 ans, on mettait du goudron un peu partout, et puis sur les trottoirs, et puis clic-clac, c'était fini. Maintenant, c'est plus compliqué, et beaucoup d'habitants sont contents de voir peut-être des aménagements un peu différents.
Oui, alors, ça évolue beaucoup. Je dirais qu'il y a un certain nombre de lois qui font que ça évolue. Je pense, par exemple, au plan pluie, qui nous oblige à infiltrer maintenant, donc avoir des techniques un peu modernes, un peu plus évoluées. Et puis, nous avons surtout maintenant des coordinations très importantes. Quand on fait une voirie, par exemple, dans le Grand Reims, on réfléchit déjà en amont. Est-ce que les réseaux qui sont sous la voirie, je pense à l'eau, l'assainissement public, mais aussi l'assainissement des eaux pluviales. Est-ce que ces réseaux sont en bon état? On ne va pas s'amuser à faire une voirie au-dessus, puis dans 2 ans ou 3 ans, rouvrir parce qu'il y a un réseau qui est défaillant.
On l'a vu pourtant dans de nombreuses villes de France.
Oui,
Nous,
la communauté urbaine, on réfléchit en amont, on fait des passages caméras, donc les services s'en occupent. Et à partir du moment où on voit qu'il y a des choses à faire, on fait déjà en amont. Avant de faire la voirie, on commence déjà à remettre les réseaux en état s'il y a besoin. On fait aussi des enfouissements de réseaux, c'est-à-dire que tous les réseaux électriques qui sont en l'air sur des poteaux ou les réseaux téléphoniques, on va les passer en souterrain, on va en profiter si on fait la voirie. Donc là aussi, il y a une coordination à faire avec les structures qui s'en occupent, comme le CIEM. Et puis une fois que tout ça a été pensé, on fait la voirie. Donc vous voyez, et quand on fait une voirie, on essaie de la faire pour très longtemps, donc c'est des voiries avec des matériaux qui sont des matériaux solides. Globalement, évidemment, tout ça c'est bien, mais ça coûte de l'argent, et on comprend que les communes seules étaient limitées dans le passé pour faire ces voiries. Aujourd'hui, la communauté urbaine, elle consacre 12 millions par an aujourd'hui, 12 millions par an d'investissement dans toutes les communes des 140 communes qui sont autour de Reims, sauf Reims. Hein, je ne parle pas du budget ni des voiries de Reims, qui sont là gérées directement par le maire. Donc ces voiries dans les villages, 12 millions, ça représente en gros une fois et demie à deux fois ce qui était fait avant.
Et ce qu'il faut dire aussi sans doute, François Morin, c'est que ces choses-là demandent de l'argent, vous l'avez dit, les communes ne pourraient pas y faire face, mais parfois il y a des financements croisés. On a eu un maire, alors je ne sais plus si c'est parce que sa rue dépassait les limites de sa commune, je ne sais pas trop, mais il y avait quand même un petit financement du conseil départemental, voire de la région.
Ça peut être un gros. Si c'est une route départementale, c'est la maîtrise normalement d'ouvrage du département, qui peut la confier d'ailleurs à la commune, c'est ce qu'il fait en général. Mais effectivement, là, on doit travailler ensemble. Donc, si c'est une départementale, en plus de tous les travaux que je vous ai dit tout à l'heure, il va y avoir le rembé qui va être fait, le tapis final, c'est le département qui va financer. Donc les communes ont une contribution du département. Les communes vont quand même garder des choses à leur charge, par exemple les trottoirs ou le réseau d'eau pluviale qui va rester à la charge des communes.
Et on a souvenir qu'il y a certains villages qui sont effectivement traversés par la rue principale. Elle est à la fois rue communale, rue départementale.
Non, elle est départementale.
C'est
soit départementale, c'est la plupart des cas dans les petits villages, soit la communauté urbaine. Bon, si elle est départementale, c'est ce que je vous ai dit, c'est le tapis qui va être payé par le département, et le reste, ça sera la communauté urbaine. Si c'est une voirie de la communauté, c'est la communauté qui paye tout. Donc c'est clair.
Alors sans entrer dans la technique, François Mourat, parce que nos amis auditrices et auditeurs, on aurait peut-être assez d'entrer trop dans le détail, mais tout de même, il y a partout un souci de l'environnement. Autrefois, on mettait du goudron, etc. Maintenant, même s'il y a quelques herbes qui pourraient ressembler à des mauvaises herbes, c'est pas du tout ça. C'est parce que il y a beaucoup de gens qui souhaitent quand même avoir un peu de verdure.
Alors, c'est pas forcément des mauvaises herbes, mais en gros, oui, la législation évolue et puis les tendances évoluent. Donc, j'ai dit tout à l'heure, l'infiltration, par exemple, il faut infiltrer le maximum. Donc, ça veut dire qu'il faut des techniques sur les routes qui permettent que l'eau puisse s'infiltrer. Mais il y a aussi maintenant dans les aménagements, je pense sur les bas-côtés, on fait des noues, on fait des aménagements paysagers et on essaye justement que, comme on est dans le réchauffement climatique, ce soit des matériaux, voire des terrains qui permettent à ce qu'on ait une certaine fraîcheur. Donc on évite ce qu'on appelle les puits de chaleur avec des enrobés noirs partout. Avant, on mettait de l'enrobé partout. Maintenant, on en met le minimum sur les côtés. On met des noues, on met des espaces verts et on essaye d'avoir justement de coller à la fois à l'aspiration des gens, mais aussi aux contraintes du climat.
Alors dans certains villages, mais c'est pas le cas de Vendeuil, des villages du Grand Reims, mais on a parfois des rues, on l'a vu à Reims, mais qui n'est pas dans le Grand Reims au niveau voirie. Au moment d'inondation, il peut y avoir des problèmes quand c'est du goudron parce qu'il n'y a pas d'infiltration. C'est ce que vous nous disiez.
Ben exactement. Je dirais que les gros orages nous ont appris que lors des forts écoulements, les tuyaux ne sont pas toujours en capacité d'absorber. Donc la volonté est d'essayer d'infiltrer le plus possible pour que cette eau-là n'arrive pas justement dans les tuyaux. Quand on fait une rue maintenant, quand on fait une route, surtout chez nous dans les villages, on essaye de faire des puisards pour pas amener l'eau en supplément des eaux déjà qui coulent dans les réseaux.
Merci en tout cas François Mourat, maire de Vendeuil. C'est à ce titre que vous êtes dans cette émission Votre maire nous parle, mais vous avez aussi un autre titre et vous nous avez éclairé pour répondre au maire que nous avons interrogé tout au cours des dernières semaines comme vice-président du Grand Reims, chargé de la voirie, parce que la voirie est une préoccupation de beaucoup de maires. Merci François Mourat d'avoir été avec nous et à très bientôt sur RCF.
À bientôt.
Merci à vous également Jean-Pierre d'être avec nous. On vous retrouvera d'ailleurs je crois dans la deuxième partie d'émission pour interroger Pierre Cordier, député de la deuxième circonscription des Ardennes. Nous, il est bientôt l'heure du journal régional, mais avant cela, comme ce sont les derniers moments de Mélissa à la rédaction, elle sera encore avec nous demain d'ailleurs, elle sera notre invitée à 7h40 pour nous parler davantage de son stage. Elle est également là ce soir pour nous parler de la météo, elle nous l'a présenté tout à l'heure et puis elle la présentera encore aussi demain soir dans le magazine. Et oui, Mélissa, encore 24 heures à nous supporter, à devoir supporter l'équipe de RCF. Mais globalement, comment s'est passé votre stage, Mélissa ?
Eh bien, très bien. Franchement, je n'ai rien à dire.
Bon, au moins des bonnes nouvelles, des missions qui vous ont plu, peut-être plus que d'autres ?
Non, franchement, tout m'a plu.
Bon, alors qu'est-ce que vous avez fait ? En quelques mots, on en parlera davantage demain matin, mais là, on a un petit peu de temps.
Bah, j'ai fait beaucoup de visuels pour les réseaux sociaux. J'ai fait des projets pour RCF, un peu plus...
Des dossiers de présentation, plus pour aller voir les mécènes, par exemple.
Exactement. Et puis, j'ai fait des documents pour toi et pour Jean-Pierre Benoît, pour l'enseignement.
Eh bien, si vous voulez en savoir plus, le rendez-vous, c'est sur RCF France-Ardennes, demain matin à 7h40. L'invité à 7h et 8h, ça sera Mgr Étienne Véteux, évêque auxiliaire du diocèse de Reims et des Ardennes. Mais pour l'heure, il est 18h30, c'est le journal régional. Les titres de ce 19 octobre, la CCI des Ardennes a lancé hier soir une initiative solidaire pour une collecte de jouets au profit des enfants bénéficiaires du Resto du Cœur dans le département Focus. Le parc éolien Mont-de-Bézard au sud de la Marne a été renouvelé avec des éoliennes plus grandes et plus puissantes. Explication.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Comme il l'avait annoncé, Christian Brouillen a remis ce matin sa démission de la présidence du département de la Marne, démission qui fait suite à son élection en tant que sénateur le 24 septembre dernier. Le premier vice-président du conseil départemental de la Marne, Jean-Marc Rose, assurera l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président programmé le lundi 6 novembre prochain. À l'occasion du mois de l'engagement lancé hier à la Chambre de commerce et d'industrie des Ardennes, les entreprises ardennaises et marnaises ont été sollicitées pour s'engager avec les entrepreneurs du cœur en partenariat avec les Restos du cœur et l'association FLAP qui porte le cabaret vert. Les entreprises ont jusqu'au 24 novembre pour faire don de jouets neufs ou en très bon état, en donnant d'elles-mêmes, mais aussi en sollicitant leurs collaborateurs. Aubin Janteur, président de la CCI des Ardennes.
Nous avons lancé hier un événement, plutôt la seconde phase d'un événement que nous avions déjà organisé l'année dernière, avec les Rockeurs ont du cœur. Les Rockeurs ont du cœur, c'est une association dérivée de FLAP Cabaret Vert, donc l'association qui porte le cabaret vert, et qui tous les ans organise un barathon, c'est-à-dire une tournée de bars ou de lieux insolites dans lesquels se déroule un concert. Et le ticket d'entrée, la participation aux frais pour accéder à ce concert, c'est d'apporter un jouet. Un jouet neuf ou en très bon état, qui est donné ensuite au Resto du Cœur, qui eux-mêmes les donnent à des enfants défavorisés.
Pour cette deuxième édition, l'objectif est d'atteindre les 1300 jouets collectés afin de satisfaire les 1300 enfants bénéficiaires des Restos du Cœur dans le département des Ardennes. Les particuliers aussi ont la possibilité de soutenir cet élan.
On utilise d'une part le réseau des entreprises s'engagent et aussi les bases de données d'entreprises qui sont liées aux chambres consulaires, en leur soumettant l'idée, en leur disant voilà, on organise cet événement-là avec après des modalités pratiques qui permettent aux entreprises soit d'apporter directement leurs cadeaux sur les sites de Charleville, Reims ou Chalon, ou alors même on propose un service de ramassage qu'on organise pour aller directement dans les entreprises chercher les jouets. L'idée, c'est aussi de se dire que nos entreprises, la force, la visibilité qu'elles ont, ce sont aussi des lieux de vie, de partage. Donc on sollicite par là même également les salariés des entreprises. C'est-à-dire que c'est pas forcément l'entreprise en tant qu'entité qui adhère, mais l'idée, c'est d'utiliser le levier de l'entreprise, qui est quand même un endroit où on passe beaucoup de temps dans une journée ou dans une semaine, pour communiquer et partager aussi ces opérations solidaires qu'on lance.
Et pour la formule Barathon, avec le jouet comme ticket d'entrée, la programmation des concerts est en cours d'affinage. Elle sera révélée dans les prochaines heures sur les réseaux sociaux des différentes institutions partenaires de l'événement, CCI, Cabaret Vert et les entrepreneurs ont du cœur en Ardennes. En 2022, l'initiative lancée à une plus petite échelle avait permis de rassembler 480 jouets. À Charleville-Mézières, la nouvelle maison du don de l'établissement français du sang a été inaugurée ce matin. Un nouveau lieu qui s'inscrit dans la démarche Innovadon, contraction des mots innovation et don, qui consiste à réinventer l'expérience donneur en s'adaptant aux nouvelles attentes et aux nouveaux usages des donneurs, et en particulier ceux issus des nouvelles générations. La maison du don de Charleville vous accueille au 43 avenue de Manchester, le lundi de midi à 18h, du mardi au jeudi entre 8h et 16h, et le samedi de 8h à 13h. Un rendez-vous que l'on vous donne pour ce week-end, ce samedi 21 octobre. Rien n'est terminé, c'est le dernier roman de Sandra Bagnère. L'autrice sera en séance dédicace à la librairie Guerlain, samedi 21 octobre. C'est à Reims, bien évidemment, la librairie Guerlain qui est partenaire de ce roman. Dans le cadre de la troisième édition de la Semaine de l'intégration, le préfet de la Marne, Henri Prévost, a participé cet après-midi à l'atelier Canopée à la journée Vivre Ensemble, le festival de l'écrit dans la Marne, porté par l'association Initiale, une semaine qui permet de valoriser les initiatives, les réalisations et la mobilisation des acteurs qui œuvrent dans la Marne aux côtés des services de l'État en faveur de l'intégration des étrangers en France en matière d'apprentissage du français, d'appropriation des principes et des valeurs de la République, de citoyenneté, d'accès à l'emploi, à la mobilité, au logement, à la culture et au sport. Il y a une semaine, en Haute-Marne, les différents acteurs culturels du pays Bragard se sont réunis à Saint-Dizier pour la première édition de La Journée Culte, les territoires s'emparent de la culture. L'occasion d'annoncer une série d'initiatives, notamment la duplication à l'échelle nationale du dispositif culturel La Beauté Sauvera le Monde, avec une nouveauté que nous présente le maire de Saint-Dizier, Quentin Brière.
La Beauté Sauvera le Monde, c'est vraiment un concept qui consiste à détourner les panneaux publicitaires pour ne plus y afficher pendant quelques semaines des pubs diverses et variées, mais pour y déployer des œuvres d'art, des grands artistes. Et cette année, c'est sur le thème de l'art dans l'art. Et donc, venez vous promener à Saint-Dizier, venez découvrir ces artistes qui sont dans toutes nos rues, sur nos places publiques, nos édifices publics. Mais la nouveauté aussi, cette année et l'année prochaine, eh bien, c'est que d'autres maires en France ont décidé de faire la même chose, de pouvoir, eux aussi, mettre de la beauté dans l'espace public, parce que c'est ça qui fait du bien aux gens, tout simplement.
Autre initiative, la mise en place d'une expérimentation d'un prototype de marelle musicale à Saint-Dizier dès décembre 2023, créé par la Philharmonie de Paris, Quentin Brière.
Notre intention, c'est de faire en sorte que les plus grands acteurs culturels de France, les plus grands établissements culturels, viennent déployer ce qu'ils ont d'ailleurs chez nous, à Saint-Dizier. C'est pas parce qu'on est à Saint-Dizier qu'on n'a pas le droit au meilleur de la culture, de la musique, de la peinture ou des spectacles. Et là, la Philharmonie de Paris nous propose de déployer à Saint-Dizier et dans le Grand Saint-Dizier, sur l'ensemble de la communauté d'agglomération, un orchestre qui s'appelle Orchestre Demos, un concept qui consiste à proposer à une centaine d'enfants d'être membres d'un orchestre philharmonique pendant 3 ans. Ces enfants, on leur donne un instrument de musique, un instrument qui est dans un orchestre philharmonique, donc un instrument à vent ou à cordes ou autre, et ils font 2 fois par semaine 1h30 de musique pendant 3 ans. Donc ils apprennent de la musique, ils ont des éducateurs auprès d'eux, des musiciens, et puis tous les mois ils jouent au Fuseau à Saint-Dizier, et à la fin des 3 ans, ils iront faire un grand concert à la Philharmonie de Paris.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne qui nous emmène désormais entre la Marne et l'Aube. Le parc éolien de Mont-de-Bézard est lancé en exploitation en juin 2007, 16 ans plus tard. Le parc éolien voit sa puissance doublée grâce au remplacement de ses équipements en place par autant d'éoliennes. Un renouvellement essentiel pour le chef de projet chez le fournisseur d'énergie Boralex, Arthur Saltier.
C'est des projets où en fait on remplace les éoliennes qui étaient anciennes, c'est un parc qui datait de 2007 à la base, par des nouvelles éoliennes. Ça permet de produire beaucoup plus d'énergie avec le même nombre d'éoliennes. C'est vraiment une notion d'efficacité. C'est pas nécessaire dans le sens que ces éoliennes fonctionnaient encore. D'ailleurs, elles ont toutes été revendues pour servir ailleurs, sur des sites qui sont contraints, en hauteur. Mais c'était beaucoup plus une notion d'efficacité. Un peu comme quand on va changer une voiture, on la remplace pas forcément parce que la précédente est vraiment en fin de vie, mais plutôt pour avoir une voiture qui consomme moins, qui est plus efficace, qui est plus confortable. Là, c'est ça, c'est des éoliennes beaucoup plus efficaces. Un parc comme celui-là, 6 éoliennes, ça fait 25 MW, ça va produire l'énergie pour à peu près 40 000 foyers alimentés. Donc c'est beaucoup plus large, ça va pouvoir alimenter une ville comme Troyes, une ville comme Châlons-en-Champagne qui sont proches. Ça va alimenter vraiment presque toute la région, voire même l'Île-de-France aussi, avec les éoliennes qui sont autour.
2 éoliennes sont situées dans l'Aube, à Semoine, et 4 dans la Marne, à Gourgançon. Après avoir concédé leur première défaite de la saison le week-end dernier, les Flammes Carolo ont retrouvé le chemin de la victoire hier soir en Coupe d'Europe sur le parquet de Cadillac en Espagne. Succès 73-48. Les Ardennaises conservent ainsi la tête de leur groupe. 18h38, c'est l'heure de la météo. Avec Mélissa Tavares, notre stagiaire à la rédaction, qui chauffait sa voix.
Demain, vendredi 20 octobre, la pluie sera au rendez-vous. Le matin, dans tous les départements de la Champagne-Ardenne, le ciel sera assombri par les nuages gris et la pluie se joindra à eux. Les thermomètres ne dépasseront pas la barre des 18 degrés pour les plus hautes températures matinales. Mais pas de panique, car nous aurons un très bel après-midi dans la Marne, l'Aube et la Haute-Marne, avec le retour du soleil qui nous avait manqué dans les villes telles que Châlons-en-Champagne, Vaucogne et Joinville. Malheureusement, dans les Ardennes, la pluie ne partira pas. Elle restera chez vous, mais ce n'est pas grave. Quoi de mieux que de faire des crêpes ou, pour les plus adeptes de fromage, de ressortir les appareils à raclette pour se préparer aux températures hivernales. Les thermomètres afficheront au maximum les 19 degrés. Demain, nous fêterons les Adelines. Bonne fête à vous.
Bonne fête à toutes les Adelines. J'étais en train de me dire, Mélissa, une raclette par 19 degrés, c'est courageux quand même.
Bah moi ça me dérange pas personnellement.
Ah c'est raclette en été pour vous. Ok, très bien, crêpes, raclette, voici les suggestions de Mélissa. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Châlons, Charleville-Mézières.
Parole de jeunes cette semaine, c'est une rencontre entre Charlotte et Jeanne Boudre qui reviennent sur l'attentat d'Arras.
Bonjour et bienvenue dans Parole de jeunes. La semaine dernière, un attentat a été commis dans un établissement scolaire et aujourd'hui, je suis en compagnie de Charlotte pour parler de cet événement tragique. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Quelle a été ta réaction lorsque tu as vu ce qu'il s'était passé ?
Au début, un peu comme tout le monde, j'ai été choquée d'apprendre cette nouvelle. Parce que ça arrive pas tous les jours, un attentat dans un lycée. Donc c'est sûr qu'au début, j'ai eu un peu de peur, parce que j'aurais peur que ça m'arrive à moi aussi. Après réflexion, j'ai trouvé que c'était pas non plus très étonnant suite aux attentats qui se passent en ce moment même en Israël.
Comment est-ce que ça a pu t'impacter personnellement ?
Quand j'arrive au lycée, je suis pas forcément rassurée parce que je me dis que si ça arrive à un professeur, ça peut arriver à n'importe qui. Même dans les établissements scolaires, on vit dans l'insécurité maintenant. Mes parents, ils sont eux-mêmes professeurs, donc je me dis aussi que ça peut leur arriver à eux aussi ce genre d'incident. Et bah du jour au lendemain, je pourrais arriver sans parents.
Selon toi, qu'est-ce qui devrait être mis en place afin de limiter les risques que ça se reproduise ?
Ben, je dirais des interventions plus fréquentes pour rappeler les valeurs de la République, par exemple, et de la laïcité. Ce serait intéressant aussi que des intervenants comme des policiers ou des militaires eux-mêmes interviennent dans les classes de collège et de lycée régulièrement. Peut-être aussi mettre plus d'heures d'éducation morale et civique, puisque au lycée, en tout cas, on en a une heure toutes les deux semaines, ce qui n'est pas beaucoup. Peut-être rendre plus sérieuse la journée du citoyen, par exemple, parce que c'est une seule journée de 8h à 16h, où on nous rappelle les valeurs de la République, tout ça, mais bon. La plupart des élèves, ils s'ennuient pendant cette journée. Aussi, peut-être rétablir le service militaire, parce qu'aujourd'hui, on a plein d'élèves indisciplinés. Pour certains, je pense que ça leur ferait pas de mal.
Et plus généralement, que penses-tu de la situation des enseignants aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je dirais que les enseignants fournissent beaucoup de travail pour un salaire trop faible. Et aussi leur insécurité face aux élèves indisciplinés dans les collèges et les lycées, notamment les EP avec les élèves en difficulté. Et donc pour beaucoup de ces élèves qui ont un niveau faible, ils sont souvent frustrés, etc. Donc ils menacent les profs, parfois ils peuvent les insulter, il y a des conseils de discipline. Et là, avec l'attentat qui s'est déroulé, ce vendredi 13, une journée de malchance d'ailleurs, on a eu un passage à l'acte. Donc je pense qu'il faudrait tout d'abord renforcer leur sécurité et rehausser leur salaire.
Merci beaucoup Charlotte de ta participation. C'est tout pour cette interview et à bientôt dans Parole de jeunes.
Une nouvelle découverte, un témoignage, cette fois en 2006. À l'âge de 40 ans, Alexandre Blondeau a réalisé son rêve en rachetant la ferme gourmande à la Chaussée-sur-Marne, une ferme pas comme les autres où l'élevage de chèvres et la fabrication de fromage sont au cœur de sa passion. Jérôme Gorgeau est aux côtés d'Alexandre Blondeau et de ses chèvres pour nous partager cette histoire captivante.
Alors, nous sommes dans une ambiance vraiment sympathique comme tout. Nous nous retrouvons à la Chaussée-sur-Marne, Nous nous trouvons là à la chèvrerie, à la ferme gourmande d'Alexandre Blondeau. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors là, qu'est-ce qui nous entoure? Mais on a combien de biquettes là, qui nous entourent? On dit des chèvres, on dit comment d'ailleurs?
Des chèvres, oui. Après, si vous les aimez bien, vous pouvez dire biquettes.
Hein, ah oui, ils sont adorables. Je les regarde et on a envie de les caresser. On en a combien autour de nous là?
Là, on en a une cinquantaine.
Cinquantaine. Ah, elles sont gentilles. Elles cherchent la caresse là. Elles sont adorables. Ah, d'ailleurs, j'en caresse une. Ah, t'es gentil toi. Alors, vous êtes installé depuis combien de temps à peu près sur ce territoire?
Eh bien, ici, depuis bientôt 18 ans.
18 ans. Et c'est la passion du départ. C'est qu'est-ce qui fait qu'on s'installe et qu'on installe sa chèvrerie à la Chaussée-sur-Marne? Vous êtes un gars du coin, pas du tout
Alors, je suis un gars du coin, oui. Je suis né à Reims, j'ai grandi à Vitry-le-François. Mais j'ai toujours aimé les chèvres. Et à 40 ans, j'ai dit, bah, tiens, c'est maintenant ou jamais.
À 40 ans seulement?
Et oui, et donc j'ai changé de vie à 40 ans.
Vous disiez quoi avant? Je suis curieux.
Avant, j'étais commercial dans une compagnie pétrolière.
Aucun rapport, effectivement, c'est génial. Et qu'est-ce qui fait que vous vous dites les chèvres? Parce que c'était un rêve qui était au fond de vous, en arrière-pensée, ou une découverte?
C'était une sensation permanente et toujours un intérêt systématique à chaque fois que je croisais soit un producteur de fromage, soit un troupeau. Donc c'est quelque chose qui était en moi, ça c'est sûr. Et donc j'y suis venu vraiment parce que je pensais que c'était quelque chose que je ne pouvais pas ne pas faire.
Mais comment on s'improvise? Moi, j'ai envie de le faire. Là, j'ai passé la cinquantaine, je veux me lancer, mais ça ne s'improvise pas. Il faut quand même une formation, quelque chose, non?
Au contact des animaux, on apprend tous les jours, et donc ça prend très vite. Hein, quand on a envie de quelque chose, en général, on apprend bien.
Visiblement, vous avez très très bien appris. On ne démarre pas avec 50 chèvres au départ, je pense.
Ben, déjà, l'exploitation existait avant moi, hein, donc moi, je l'ai repris, elle était fonctionnelle. Et il y avait 30 chèvres à l'époque, et puis nous on a monté cheptel à une cinquantaine, tout naturellement en suivant l'activité commerciale.
Parce que là on est sur la rue principale de la Chaussée-sur-Marne, la grande rue qu'on traverse, et là vous êtes installé. Hein. Mm-hmm. Voilà. Alors qu'est-ce que vous proposez dans cet endroit qui est vraiment qui est dans son jus, et je trouve ça génial. Qu'est-ce que vous proposez ici comme produit un petit peu?
Alors nous, on est producteurs de fromage, donc on fait à la base le fromage de chèvre, et puis on a une petite déclinaison sur de la faisselle en fromage très frais, ou des yaourts, ou quelques produits transformés aussi à base de viande, parce que les gens ne savent pas toujours que l'on peut aussi consommer la viande de chèvre.
La viande de chèvre. Mmh. Alors là, si vous entendez des bruits, c'est nos chèvres hein, qui est sorbue, là, elle nous fait je sais pas quoi. Là. Mmh. Alors là, quoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça, ce bruit?
Bah, c'est parce qu'en fait elles mangent et donc la poussière qu'elles ont dans les narines, elles l'expulsent. Quoi. C'est un peu tout ça. Hein.
Voilà. La question était bête. Et oui, je disais, vous êtes, je ne sais plus ce qu'on se disait à l'instant, mais qu'est-ce qui fait que... Non, je ne sais plus, c'était pas ma question.
Parler de la production.
Ah, parler de la production, c'est ça. Ouais. Alors que oui, je vous ai interrompu. Ah oui, parce que la viande de chevreau, je ne savais pas que ça existait. Quoi.
Ben, ça existe par nature, maintenant qu'on la consomme pas forcément. Et nous, dans la culture française, c'est déjà peu répandu. Hein. Il y a quelques quartiers, quelques régions de France où on va la consommer. Mais c'est plus une consommation des pays comme des Iliens, comme la Guadeloupe, la Martinique, ou le Maghreb, ou l'Afrique, ou des choses comme ça, où les animaux sont plus présents dans la culture culinaire.
Quoi. Oui, alors... Des chèvres, parlons un peu des chèvres parce que c'est quand même important. C'est un animal auquel vous êtes attaché? Vous vous attachez aux chèvres?
Oh ben, on s'y attache le plus possible pour bien les élever, puisque pour que si les bêtes sont stressées ou qu'elles ne se sentent pas bien, elles ne nous donneront pas un bon lait.
Ah oui, vraiment, ça agira sur le lait. L'animal stressé ne fait pas le même lait.
Le pire ennemi d'un animal, c'est le stress.
Ah oui? Qu'est-ce qui fait qu'un animal peut stresser? Finalement.
Le déplacement, les changements brutaux, les changements d'alimentation, les mouvements les climatiques importants, les orages par exemple, des choses comme ça. Quoi.
D'accord. Ah oui, c'est rigolo. Et cet animal, pourquoi vous l'avez choisi lui finalement? Vous auriez pu choisir les vaches, vous auriez pu choisir les moutons, vous auriez pu choisir... Il y avait vraiment une appétence particulière pour les chèvres?
Oui, c'est une sensibilité. Hein, moi j'aime à dire que quand je suis avec les chèvres, physiquement, ça me fait du bien.
Ah oui, mais elles ont des qualités, j'ai l'impression qu'elles sont assez affectueuses finalement avec chez
elles. Ce sont des animaux très amitieux, comme on dit, ouais, tout à fait. Et des fois même un peu envahissantes si on les laisse un peu. Alors,
vous m'avez dit tout à l'heure, hors micro, qu'elles étaient capables d'aller fouiller dans une poche.
Absolument.
C'est
absolument,
vrai.
Ouais, elles sont gourmandes. Ce sont vraiment des animaux qui sont gourmands, qui cherchent, qui arnipent. Et si vous avez du tabac dans les poches, ou si elles savent qu'il y a quelque chose, comme un petit gâteau sec, un bout de croûtin en pain dur,
elles vont aller le chercher. Alors Alexandre, dites-moi un peu votre quotidien, c'est quoi votre quotidien en tant qu'exploitant? Comment ça marche? Vous levez à quelle heure le matin? Vous préparez quoi? En plus, je pense que c'est pas le même métier qu'il y a 20 ans, je suppose.
Eh bien, détrompez-vous, parce qu'en fait, c'est un métier qui est assez simple et qui est récurrent. C'est-à-dire qu'on fait la traite deux fois par jour, le matin à 7h30, le soir à 17h. Et entre les deux, eh ben, on travaille le lait, on le transforme et puis on va le vendre. Donc on a vraiment une activité récurrente, 7 jours sur 7 quand on est en lactation. Ça, c'est un point important.
C'est-à-dire quand la lactation?
Chez nous, c'est de mars à décembre.
De mars à décembre, d'accord, oui.
Donc fin décembre, là, d'ici quelques temps, parce que là, elles sont déjà pleines, hein, elles ont été saillies début octobre. Et fin décembre, on va les tarir. Bon, donc on va les laisser en paix, faire leurs petits, terminer leur gestation. Et donc on a 2 mois où on ne produit pas de lait, on ne transforme pas, donc on ne fait pas de fromage, on ne fait pas de commerce. Et à partir de fin février, début mars, quand elles vont mettre leurs petits au monde, eh ben, la saison va redémarrer et on recommence pour 10 mois.
Ah oui, c'est. Alors, on peut vraiment dire qu'on est sur du Made in Marne, parce que le produit est en grande majorité quand même marnais dans son approche, quoi.
Mais
dans toutes ces
100%.
Les
chèvres sont toutes nées ici, donc il n'y a pas de bêtes.
Il n'y a pas de bêtes qui viennent d'ailleurs. Ah oui, donc on est vraiment sur 100%.
Voilà, et puis toute l'alimentation vient du secteur, hein, que ce soit là, le luzerne ou la paille ou l'alimentation complémentaire. Donc c'est vraiment, on est vraiment dans le 100% Made in Marne, il n'y a aucun doute.
Alors, vos produits, comment on les trouve? Alors, ben, bien sûr, on peut venir ici à la Chaussée sur Marne, bien sûr, mais vous faites des marchés, je suppose, des choses comme ça?
On fait les marchés de Vitry-le-François et Chalon-Champagne.
Quand?
Jeudi à Vitry, samedi matin à Chalon.
D'accord.
Après, on fait plein d'autres marchés, un peu, on va dire, plus étalés, c'est-à-dire qu'on fait une fois par mois, on fait Matoug, maintenant on fait Courtisol une fois par mois.
Matoug, vous le faites quand?
C'est tous les premiers samedis du mois.
D'accord, c'est bon à savoir.
Courtisol, c'est tous les deuxièmes samedis du mois. Après, on fait d'autres opérations. Là, par exemple, ce week-end, dimanche, je vais à la fête des courges et des curcubiers tassés au village musée du Lair à Sainte-Marie-du-Lac.
Je suis très content que ce soit vous qui ayez eu à le dire.
C'est ça,
je pense que j'aurais buté.
Et donc, on en fait pas mal d'autres. Hein. Je vais aller à Saint-Martin-sur-le-Pré au marché aux fleurs à la fin du mois. Enfin, on sort beaucoup les week-ends, effectivement, à la rencontre de nos clients consommateurs.
Ça vaut vraiment le coup de venir voir. Ils sont vraiment sympas, ces chèvres. Il n'y a pas que les chèvres, d'ailleurs. Merci beaucoup, Alexandre. Et puis, bon fromage.
Merci à vous.
Au revoir.
Merci, Jérôme Gorgeau, toujours avec humour.
Le 18-19 sur RCF.
Pour terminer cette émission, Pierre Cordier, député de la 2e circonscription des Ardennes, est notre invité à 18h51. Et c'est vous, Jean-Pierre, qui menez l'entretien.
Pierre Cordier, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre Benoît.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que comme député des Ardennes, vous êtes bien sûr très souvent dans le département des Ardennes, mais vous êtes aussi à l'Assemblée nationale et où vous ressentez exactement les pulsions politiques et puis l'opinion publique aujourd'hui. Comment ça se passe à l'Assemblée? Comment ça se passe en France d'après vous?
Bah écoutez, effectivement, nos concitoyens sont en colère. Je fais référence, bien entendu, à ce qui s'est passé avec cet enseignant il y a quelques jours, bien entendu. Et c'est vrai que sur le terrain, on entend les gens, les citoyens se plaindre, être tristes et en colère à la fois. Il y a de la tristesse par rapport à l'exécution de cet enseignant, bien sûr, mais également de la colère, parce que finalement, depuis Samuel Paty, il y a 3 ans, voilà, il n'y a pas eu beaucoup de décisions prises par le gouvernement. Il y a toujours beaucoup d'agitation quand il y a les événements, mais finalement on se rend compte après que l'actualité en remplace une autre, les choses se banalisent et finalement il n'y a pas de résultat derrière. Donc on va voir, nous chez les Républicains, bien entendu, il y aura un texte qui va être discuté sur l'immigration dans les prochaines semaines. On a un certain nombre de propositions à faire et si le gouvernement n'accepte pas nos propositions, puisqu'il est une majorité relative, eh bien nous ne voterons pas ce texte.
Vous allez certainement profiter de cette loi sur l'immigration pour avancer un certain nombre de sujets et de pions sur cette question, mais vous verrez bien comment c'est reçu, en particulier est-ce que ça peut passer en voie à l'Assemblée.
Mais écoutez, oui, ce qui compte, c'est bien entendu que nos compatriotes vivent dans un pays en sécurité. Il faut dire les choses. Qu'est-ce qu'on attend d'un gouvernement aujourd'hui? Si on en revient finalement à la base de la politique, c'est de vivre en sécurité, de travailler, d'avoir un salaire, de vivre de son salaire et d'être dans un pays et de vivre à peu près sereinement et correctement. Aujourd'hui, on voit bien que les conditions ne sont pas réunies et qu'il y a bien entendu des individus ultra minoritaires, bien entendu, qui souhaitent semer la pagaille en France et en Europe et profiter de ce qui se passe au Proche-Orient pour revendiquer un certain nombre de choses. Donc on le voit aujourd'hui, nos compatriotes sont inquiets, je partage cette inquiétude. C'est des sujets qu'on a abordés en commission des affaires étrangères, mais également dans l'hémicycle mardi dernier, à l'occasion des questions d'actualité. Donc il y a toujours des discours, mais les actes ne suivent pas. C'est pas quelque chose de récent non plus. Hein. Voilà, Emmanuel Macron, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir. Avant, on avait eu François Hollande. Avant, on avait eu aussi Nicolas Sarkozy. Donc, mais ce phénomène prend quand même de l'ampleur. Et je dois bien dire que la France doit bien entendu garder cette tradition d'accueil pour des réfugiés politiques, etc., des gens qui sont oppressés dans leur pays pour des questions d'opinion. Mais on sait aussi que la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Cette phrase n'est pas de moi. Elle est de Michel Rocard. Vous voyez, quelqu'un qui ne partage pas, avec lequel je ne partageais pas les mêmes convictions, lui de gauche, moi à droite. Mais en tous les cas, c'est la vérité, et qu'aujourd'hui, un certain nombre de compatriotes ne comprennent pas pourquoi nous accueillons un certain nombre de personnes qui ne sont pas du tout oppressées dans leur pays, mais qui viennent en France pour des raisons économiques.
Alors, Pierre Cordier, quand vous revenez sur le terrain, dans le département des Ardennes, qui vraiment, on a l'impression quand même, ils essayent de s'en sortir aujourd'hui, le département des Ardennes, de lancer quelques initiatives. Qu'est-ce que vous disent vos administrés? Qu'est-ce que vous disent, j'allais dire, vos habitants de la circonscription, ou même au-delà de la circonscription, les Ardennais, vous connaissez bien?
Vous savez, Jean-Pierre Benoît, à l'occasion des élections présidentielles de l'an dernier, le département des Ardennes est le 4e département de France à avoir voté pour Marine Le Pen en termes de chiffres. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que les citoyens ardennais, aujourd'hui, la situation économique et sociale reste compliquée et tendue. Aujourd'hui, ce phénomène est lié à l'insécurité et à ces assassinats. Voilà, les Ardennais sont en colère. S'il y avait demain des élections présidentielles, peut-être que le département des Ardennes serait le premier ou deuxième de France à voter pour Marine Le Pen, parce que les gens sont en colère, non pas qu'ils sont fascistes ou racistes, mais ils veulent exprimer leur mécontentement à travers leur bulletin de vote, et donc pour eux, c'est Marine Le Pen qui répond à leurs aspirations, et parce que voilà, Marine Le Pen, elle dit aussi ce que les gens veulent entendre. Donc c'est aussi un petit peu facile de faire de la politique comme ça. Quand on est responsable politique, on a des convictions, on a une ligne politique. Vous savez, moi j'ai été élevé à l'école du RPR, hein, j'ai pris ma carte à 17 ans au Rassemblement pour la République à l'époque, avec des gens comme Jacques Chirac, comme Charles Pasqua, comme Philippe Seguin, qui ont bercé mon enfance, mais qui avaient aussi des convictions fortes, des convictions gaullistes de droite sociale pour Philippe Séguin et puis Charles Pasqua dans le domaine du régalien. Ben voilà, comme on dit un peu familièrement, quand il avait une idée, il ne l'avait pas ailleurs, et il disait déjà à l'époque que celles et ceux qui ne se trouvaient pas bien dans notre pays pouvaient le quitter, que ce n'était pas une difficulté. Et je rejoins Charles Pasqua sur ces questions-là. Mais aujourd'hui, dès qu'on aborde ces questions-là, on est montré du doigt en disant qu'on est intolérant et raciste. Je ne pense pas que la problématique soit là. Moi, j'ai plein de copains qui sont d'origine maghrébine, dont les parents, les grands-parents sont arrivés en France ici pour travailler, qui sont intégrés, qui respectent les lois de la République. Et je veux penser aussi à eux aujourd'hui, parce qu'ils souffrent énormément de cette situation et de voir qu'ils peuvent être eux aussi montrés du doigt.
Alors, les questions qu'on vous pose en dehors de ces questions marquées par l'actualité internationale, c'est aussi et surtout lié quand même au pouvoir d'achat, aux questions de la hausse des carburants, qui, on a l'impression que c'est un peu stabilisé en ce moment. C'est vrai que ce sont des questions qui remontent quand même régulièrement, parce que on n'en parle pas toujours, mais c'est des questions de terrain. Vous êtes sur le terrain, vous entendez quand même les choses.
Bien sûr, il y a des gens dans le département des Ardennes qui sont très modestes, notamment aussi des travailleurs pauvres, ce qu'on appelle des travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui bossent, qui partent toute la semaine, qui font leur boulot et qui n'arrivent pas à vivre avec leur salaire parce que leur salaire est trop bas. Donc ça, c'est un vrai sujet aussi, parce que les gens qui n'arrivent pas à vivre aujourd'hui avec leur salaire, et c'était l'objet aussi d'un certain nombre d'amendements que nous avions déposés, mais voilà, hier après-midi, Elisabeth Borne a sorti l'arme du 49.3 pour faire passer son texte puisqu'elle n'a pas de majorité, donc donc il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu d'échange. Et ça, c'est quand même aussi dommage, mais les préoccupations, elles devaient s'exprimer à travers ces amendements pour montrer effectivement au gouvernement que les gens vivent difficilement aujourd'hui. Donc, bien entendu, avant, on disait, ben voilà, si tu as un boulot, tu arrives à vivre, tu payes ton emprunt de maison, tu payes ton carburant, tu arrives quand même à aller en vacances. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il faut aussi, par rapport à cette question du pouvoir d'achat, de l'inflation, apporter des réponses très claires à nos compatriotes. Et je crains que les propositions qui soient faites par le gouvernement soient aujourd'hui insuffisantes. Parce que Emmanuel Macron, ça fait 6 ans qu'il est au pouvoir, on va attaquer la 7e année, et il faut bien reconnaître qu'on ne peut pas dire que les gens vivent mieux aujourd'hui qu'il y a 7 ans.
Merci Pierre Cordier d'avoir été avec nous. On est obligé de vous couper là sur les mots. On sait que vous auriez eu encore des choses à nous dire, mais nous on a un impératif, c'est le journal national à 19h du réseau RCF. On a encore quelques secondes et on va les prendre pour... vous dire au revoir à vous, les auditeurs fidèles au poste de RCF, puisqu'on se retrouvera encore demain à 18h10 pour le dernier magazine régional de la semaine. Par contre, on vous donne d'ores et déjà l'information, on vous accompagnera pendant la première semaine des vacances. Donc si vous partez, n'oubliez pas d'installer l'application RCF ou de connecter le site RCF sur votre smartphone. Vous pourrez suivre le magazine régional de RCF en Sardaigne, de RCF Cœur de Champagne, en sélectionnant vos radios préférées. Merci Mélissa, une très bonne soirée. On se retrouve demain dès 7h40 sur RCF en Sardaigne.
Exactement, bonne soirée à tous.
Bonne soirée également à Fabrice Gironet qui était à la mise en onde ce soir. L'information nationale arrive tout de suite et à 19h12, les méditations. Très bonne soirée en compagnie de nos programmes.